Bonjour à tous, vous êtes bien dans le podcast sur l'actualité du cinéma vu par le scénariste. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 90. Et aujourd'hui, nous prierons le Saint Atome, qui peut résoudre tous nos problèmes en une milliseconde, puisque nous parlerons de Oppenheimer. C'est Guillaume au micro, et pour parler de ce film, j'ai autour de moi ma petite équipe de bombes atomiques. Ouais, elle était facile, mais il fallait que je la fasse. À savoir Sarah, Armand, Fiona, et on a aussi Camille, qui n'a pas vu le film, mais qui participera quand même. Oppenheimer est écrit par Christopher Nolan et Kyburn Martin Sherwin, et c'est Camille qui va nous le pitcher sans avoir vu le film.
Oppenheimer, c'est l'histoire d'un homme qui invente et construit une bombe atomique, qui se dit « je suis un mec bien », et après il se réalise qu'il est responsable de milliers de morts, et il se dit « ah, boulette ».
C'est un des meilleurs pitchs que j'ai entendu. Sarah, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit Robert?
C'était très long.
Non, mais le personnage, je parle. Putain.
En fait, le problème, c'est que je pense que c'est un personnage fascinant, mais que je ne me suis pas vraiment intéressée à lui parce que j'avais beaucoup de mal à rentrer en empathie avec ce personnage. C'est-à-dire qu'on est tenu très à distance pendant tout le film. Pourtant, il a des relations qui pourraient être super intéressantes avec sa famille, c'est sa maîtresse, son ami. Il découvre que son ami est quand même un traître à la solde des soviétiques. Ça pourrait être une scène extrêmement émotionnelle. Absolument pas. Parce qu'en fait, on le voit pas beaucoup avec son ami, alors que son ami garde quand même ses enfants pendant on ne sait pas combien de temps, parce qu'à un moment, ils vont quand même donner leurs enfants parce qu'ils peuvent plus s'en occuper. Enfin, c'est des moments hyper forts de vie, mais tout se passe un peu comme ça, de manière chronique et à distance. Et du coup, bah, on suit un peu. Et le seul moment où j'ai vraiment ressenti quelque chose pour lui, c'était à la fin. C'est, je trouve, le meilleur moment du film, c'est le procès. Donc, c'est plus dans la bombe atomique, c'est tout le procès qui a lieu dans les quoi, 40 minutes, parce que c'est vraiment long du film. Et là, bah, on voit qu'il prend cher et qu'il commence à se remettre en question et à essayer de se défendre. Et du coup, il se prend quelques coups dans la gueule et on est un peu plus avec lui. Okay. Sinon, ce personnage, je l'ai trouvé tellement détaché que c'était un peu difficile de s'attacher.
Mais ça, je trouve ça courageux, moi, parce que justement, ce personnage, comme tu dis, pas d'empathie. Mais c'est un film qui a un peu parlé à moi, parce que c'est un film qui fait le pari de l'intelligence. Fait, ce mec est un génie. On se sent presque obligé de l'admirer parce que tout le monde est pendu à ses lèvres. On comprend, même si on comprend pas ce qu'il fait concrètement, on est incapable de refaire une bombe atomique, mais il est tellement fort, tellement intelligent, tellement le seul et unique personne sur Terre à pouvoir faire ça, que ça force pour moi une empathie obligatoire. Je sais pas si t'as ressenti ça, Fiona, ou quoi.
Alors, pas tout à fait. En revanche, je trouve que ce personnage, ils nous le décrivent très bien comme un théoricien. Et je pense que c'est comme ça qu'ils veulent nous le montrer aussi. En fait, il est pas dans le concret. Enfin, il faut que ça marche concrètement, mais on le voit quand il voit les essais d'autres choses. Enfin, je sais plus qu'est-ce qu'il construisait à côté quand il était professeur. Ça ne lui parle pas du tout, tout ce qui est mis en pratique.
Tu veux dire, il est plus dans les mathématiques, les équations.
Oui, voilà, dans les équations, il est sur papier. Et d'où son côté un peu hors sol sur tout, je pense, c'est qu'il est un peu en l'air. Et justement, à la fin, on se demande presque, est-ce qu'il culpabilise vraiment ? Est-ce qu'il est neuneux ? De pas, non mais vraiment de dire ok t'es un génie mais t'es vraiment juste dit non mais ça va juste être pour intimider, on va jamais l'utiliser, soit t'es débile évidemment, et en plus évidemment que toi aussi t'avais envie qu'elle soit utilisée cette bombe.
Oui, mais c'est la beauté de l'affaire.
Ce qui est très intéressant par contre, c'est moi, je remets un peu de crédit à ce moment-là, c'est le moment où il comprend que son bébé lui échappe aussi. C'est-à-dire où il a fini sa bombe, le gars il a mis des années, il a mobilisé toute sa famille, toute sa vie, il a perdu des amis, etc. Et là, c'est bon, elle est finie. Les militaires vont l'utiliser. Et il dit, oui, dites-moi quand. Enfin, il va être impliqué, évidemment, dans le processus. C'est fou comme, en tant que scénariste, on se sent vraiment en empathie avec cette personne.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Son bébé est terminé. Et on dit, du coup, on pourra venir sur le plateau. Et c'est un peu... Vous m'appelez, etc. Et en fait, les militaires sont là. Oui, oui, c'est très bien. Enfin, reste à ta place. Genre, maintenant, we take over. Enfin, on récupère le bébé. T'as plus à t'en occuper. Et lui, il dit, attends. J'ai construit une putain de bombe atomique. Évidemment que je veux continuer à faire le SAV de ma bombe atomique, sauf qu'il n'est plus requis. Et ça, c'est un peu une petite mort intérieure quoi, pour lui. Et ça, c'était hyper touchant, ce moment-là.
Ok, Armand ?
Je rejoins un peu ce que Sarah a dit au début sur l'empathie. En fait, j'aurais aimé, moi, justement, que de la même manière qu'on nous prend un petit peu par la main pendant la deuxième partie du film, c'est-à-dire le procès, j'aurais aimé, moi, qu'on me tienne par la main pour me montrer, justement, être à fond avec lui et comprendre par quoi il est passé pour se dire je vais construire une bombe atomique et entre guillemets moralement c'est ok. J'aurais aimé en fait comprendre par quoi il est passé, parce qu'effectivement là on est tellement tenu à la carte que comme dit Fiona, bah, à la fin on se dit mais oui il est neuneux, nous on voyait très bien, et justement en fait c'est dommage de pas être passé par des étapes où on se fait avoir avec lui, où on est pris au piège comme lui par tous les gens qui lui disent C pour arrêter la guerre, le fameux faisons une bombe pour arrêter la guerre. C'est de toute façon les Japonais se rendront jamais, etc. Et puis au fur et à mesure qu'on le dépossède de son bébé, bah oui, comme t'as dit là, là on a des petites surprises du genre ah en fait on n'était pas obligé, ah puis en fait ils avaient peut-être capitulé, ah puis en fait et en fait on, le mec il se dit putain mais en fait tout le monde m'a piégé. Moi j'aurais aimé voir ces petites étapes au fur et à mesure me faire arnaquer avec lui pour après que la chute soit encore plus immense au procès.
Mais moi j'ai quand même l'impression que le film prend pas tout à fait parti, mais aussi pour nous dire bah en fait il joue les naïfs aussi.
Moi
je pense que c'est, il nous laisse sur, vous pensez ce que vous voulez, mais il y a une bonne chance qu'il joue les surpris et les naïfs alors qu'il savait très bien. Et il y a quand même une scène qui m'a intriguée et j'ai du mal un peu à exactement comprendre son sens par rapport au reste du film, mais qui m'est resté vachement en tête parce que je l'ai beaucoup aimé. C'est la scène où son professeur l'humilie, enfin il lui dit tu restes, tu ne vas pas voir la conférence, qui met du cyanure dans sa pomme. Qui, après, il dort, il a ses rêves un peu
psychédéliques,
et il dit mince, il faut absolument que j'arrête ça, il faut que j'arrête mon professeur, il ne faut pas qu'il mange cette pomme. Et est-ce que, donc je pense que ça doit être une espèce de métaphore de la bombe, logiquement, mais d'un autre côté, là, il a l'air d'être vraiment, d'avoir fait cet acte sous le coup de la colère et de l'impulsion, ce n'est pas le cas de la bombe atomique.
Non, mais on voit qu'il est... Il a un rapport bizarre avec la mort dès le début, ce mec-là. Oui, Camille.
J'ai une question pour quelqu'un qui n'a pas vu le film. Est-ce que ça vous semble cohérent que quelqu'un d'aussi brillant soit aussi naïf au final? Non,
mais c'est pas de la naïveté, c'est aussi un truc avec la mort.
Ah non, t'as des trucs.
Ah pardon.
Oui, Armand.
Moi, en fait, limite, j'aurais aimé s'il joue les naïfs. Moi, je pense qu'on peut être naïf comme ça. Mais encore une fois, j'ai envie de... Comme je me dis, c'est un génie, j'ai besoin de passer par les étapes, j'ai besoin de comprendre comment cet esprit brillant peut être naïf, comme il a été piégé, ou comment lui-même... Et pareil, s'il joue un double jeu, si lui-même, il joue les naïfs, du coup, j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'il fait. Ok, il joue les naïfs, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait la bombe parce qu'il sait très bien qu'il va tuer des gens. Du coup, j'ai envie de savoir pourquoi. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est sa boussole morale.
Mais j'aurais aimé
la connaître.
Mais moi, je pense que plus que dans le naïf, je pense qu'il est dans le déni. Parce que c'est un mec qui est passionné par la science et il a envie de le faire. Et il aurait pactisé avec le diable, entre guillemets. Parce qu'il voit une hypothèse. Et on le voit dans ses rêves. On le voit avant qu'il crée de la bombe, qu'il imagine visuellement comment les atomes rentrent les uns avec les autres. Et c'est une des thématiques de ce film, parce que je trouve qu'il y en a plusieurs, c'est la passion de la science et jusqu'où je suis prêt à aller pour aller jusqu'au bout de mon idée. Et on voit, il a ça aussi avec un des mecs, alors j'ai oublié son nom, je suis désolé, qui bosse avec lui, qui dit mais moi votre bombe atomique de gamin, moi j'en veux pas, moi je veux faire une bombe H quoi. Lui aussi il voit déjà plus tard et c'est un des mecs qui préfère parce que lui aussi il a une espèce de vision scientifique qui va encore plus loin.
Et c'est aussi un des mecs qui s'aborde à la fin, si mes souvenirs sont bons, je l'ai vu il y a un peu longtemps. Mais il me semble qu'à la fin, il le dégage aussi parce que.
Mais je me rappelle plus.
Il a son autre idée, si ma mémoire est bonne.
En tout cas, j'ai l'impression que c'est une histoire vraiment, comme dit Guillaume, du monstre de Frankenstein. C'est-à-dire que par passion de la science, t'as envie d'aller toujours plus loin, de trouver des choses toujours plus extraordinaires, qui peuvent être extrêmement destructrices et qui t'échappent, qui finissent toujours par t'échapper, quoi. Après. Je dirais pas qu'elle est naïve. En fait, il faut se remettre dans le contexte de l'époque où c'était un exploit, où c'était un sauveur, où c'était les Américains qui étaient les sauveurs, parce qu'il s'était fait agresser par les Japonais qui avaient lancé l'attaque à Pearl Harbor. Et à l'époque, il n'y avait aucune remise en question de la bombe atomique.
Il y avait aussi la course de si vous ne le faites pas en premier, les Russes le font en premier. Ouais. Et c'est nous qui allons nous faire buter. Donc il y avait un argumentaire.
Ça a été 20 ans plus tard qu'on en a débattu.
Tout ça, c'est génial, mais malheureusement, c'est pas assez incarné dans le film. C'est pas assez montré. Il n'y a pas assez cette course-là, moi, j'ai trouvé.
Non,
c'est juste dit, en fait. Ça n'est pas montré. On ne voit pas justement les progrès des Russes en face. On ne voit pas à quel point.
On voit qu'il y a quand même des traîtres qui récupèrent des informations, que c'est un enjeu.
Franchement, c'est juste dit et c'est pas montré. Et du coup, moi, je trouve que ça ne s'imprime pas et que ça fonctionne pas.
C'est quand même tout l'intention de ce fameux procès.
On
est passé à l'intrigue là parce que
ça revient avec le personnage, tu vois, via le personnage de Matt Damon qui représente cette espèce de paranoïa, ils vont fabriquer une espèce de village secret au milieu du désert et tout. C'est de la paranoïa. Il y a quelque chose. Bon, ça c'est de l'intrigue, mais tant pis, je suis sur ce personnage. Je trouve qu'ils en font beaucoup trop parce que moi j'ai pas compris l'enjeu de ça, de son accréditation. Ils en parlent tout le temps, mais je dis, mais là, au moment du film, il l'a pas. Je dis, mais tu fais ce que tu veux, t'as qui tu veux, tu vois où tu veux, elle va t'apporter quoi cette accréditation à la con? Parce que tu fais tout ce que tu veux avec, enfin sans, donc pourquoi tu la veux?
Oui, bah justement, je pense que c'était un des problèmes, je trouve, dans ce procès. Je ne comprenais pas pendant très longtemps ce qu'il risquait, ce qu'on lui... Et effectivement, on parle de cette accréditation et ça nous manque de savoir ce que ça fait s'il la perd. Et c'est... on m'a expliqué après que c'est ta street cred, quoi. Enfin, aussi... voilà. Mais c'est clairement pas un enjeu de vie ou de mort non plus. Donc, ou alors, il faut nous le présenter vraiment plus en disant, c'est ta crête, c'est oui, pour Oppenheimer, c'est un enjeu de vie ou de mort. Mais là, pour l'instant, t'as tous cette espèce de procès, en plus, qui est mis en scène, parce qu'on fait exprès de le mettre dans une petite salle, de lui faire peur, etc. Et bah, tu comprends. Moi, j'étais perdue dans ces périodes. C'est entre les passages en noir et blanc et ce petit procès dans cette petite salle. Vraiment, j'étais perdue sur qui est quoi et sur la timeline un petit peu aussi.
Bah quand on est en noir et blanc, on est du point de vue justement de l'autre personnage qui est l'antagoniste, qui est Lévi-Strauss, qui est au début justement on croit que c'est l'ami d'Oppenheimer et on découvre qu'à la fin c'était lui le grand Manitou qui avait organisé tout ça. Mais moi Lévi-Strauss, j'ai adoré aussi ce personnage parce que ce film parle à la fois de la politique, donc justement ce que me disait Sarah qui va lui piquer sa bombe, et les scientifiques qui sont juste des scientifiques, qui voient même pas le bien et le mal, qui on va essayer de construire quelque chose parce que on peut voir jusqu'où on va aller. Et donc du coup, moi c'est la scène que j'ai adorée, c'est la scène où Oppenheimer va voir le président des États-Unis, qui est Truman, il me semble, et qui lui dit en gros arrête de chialer, c'est bon, c'est
Gary moi. Altman, ouais.
Ouais, c'est moi qui ai lancé la bombe, et quand il se barre, il dit bon, me ramenez plus cette chochotte. Ça. Et Lévi-Strauss, il est juste entre les deux. Il comprend le monde scientifique, mais il sent qu'il n'est pas assez bon pour devenir un scientifique, donc il a cette frustration, et il n'est pas assez bon en politique pour tout décider, donc il est juste entre les deux, il perd sur les deux tableaux, et j'ai compris sa frustration absolue, il dit « mais je veux gagner, je voudrais être Oppenheimer, je voudrais être Truman ».
Sa paranoïa qui est quand même, moi je trouve assez chouette, justement sur cette fameuse scène entre Einstein et Oppenheimer,
qui est superbe.
Où Lévi-Strauss est persuadé qu'il rigole de lui, ou qu'il parle de lui, que Oppenheimer a dit du mal de lui à Einstein, alors que pas du tout, ça montre aussi l'ego démesuré de ce monde-là. Et c'est vrai que ça, c'est très chouette.
Et alors, on va passer à l'intrigue aussi. Alors, outre le fait que je trouvais c'est un chouïa suicidaire, cette espèce de façon de structurer le film avec 4 ou 5 moments divisés et surdivisés. Alors, on voit qu'il essaie de mener noir et blanc. Il faut s'accrocher. C'est un film, il faut être attentif. Il dure 3 heures. Je suis allé aux toilettes un moment parce que je me suis dit, tain, je vais revenir, je vais rien comprendre. Bon, je suis allé pisser. Juste au moment où ils amènent la bombe, je me suis dit, je connais Nolan, il va monter dans l'ascenseur pendant 10 minutes, donc j'ai eu le temps, j'ai rien raté. Mais je me dis, c'est quand même une prouesse parce que, pour ma part, je n'ai pas été perdu dans le film.
Moi, j'ai été un peu perdu et parfois j'ai l'impression, pour le coup, que avec justement ces timelines, Nolan fait un peu du Nolan pour faire du Nolan de je vais tout découper dans tous les sens et faudra suivre et faire appel à l'intelligence du spectateur, ce que je comprends, mais même si ça rythme un peu, c'est un peu perdre le spectateur pour un peu rien, je trouve.
Ouais, mais il était obligé de faire ça parce que étant donné que nous, spectateurs, on sait très bien qu'il va y arriver. Il n'y a pas d'enjeu sur le fait qu'il va réussir à faire la bombe atomique. On sait qu'il va le faire. Du coup, s'il avait découpé et d'abord on construit la bombe atomique et ensuite il y a le procès, je pense que le rythme serait tombé d'un seul coup.
Oui, sans doute, mais par exemple, de valoriser, enfin, de mettre plus en avant les enjeux qu'il y a autour donc, de ce procès, les scènes en noir et blanc et les scènes dans le bureau, en quoi l'une répond à l'autre, c'était pas très clair pour moi, ces deux périodes administratives.
Ouais, je comprends. Et alors, moi, je trouvais qu'il y avait quand même deux scènes assez cheapos. C'est le moment sur le procès où le mec, donc une espèce de procureur qui a été choisi par Lévi-Strauss pour le faire chier, et qui lui dit oui, vous aviez une maîtresse et tout, et là d'un seul coup il a une vision de sa maîtresse qui est sur lui en train de baiser. Ouais, bon, j'ai l'impression que ça fait vraiment série américaine assez facile. Et la deuxième, c'est justement où il se rend compte que merde, sa bombe ça a tué des gens, et puis pendant qu'il applaudit, il voit le corps des gens. Je dis, mais c'est la première idée qu'on aurait eue, quoi. C'est la première idée qu'on aurait montré que pour qu'ils se rendent compte que sa bombe tue des gens et qu'en fait qu'il marche sur des cadavres, on aurait tous écrit ça. Et je m'attendais à un peu mieux de la part de Nolan.
Je suis d'accord sur la. En fait, je crois que c'est pour nous dire, il me semble que c'est pour nous dire qu'il ne se rend pas compte des conséquences de ses actes, globalement, mais que ça n'apportait pas non plus énormément de choses et pareil, pas trop d'empathie non plus sur ce personnage. En revanche, moi j'ai bien aimé la scène où, de cette conférence de presse, entre guillemets, où tout le monde l'applaudit et où lui, le bruit des cris est assourdissant, enfin. Le son il est démesuré, où on se dit ok, là il se rend compte de ce qu'il a fait. J'ai trouvé que cette scène était moi plutôt bien réussie.
Très bien. Un mot sur la structure, Sarah Hermon?
Je me perso, j'en peux plus de ces structures de Nolan. c'est perso, j'ai l'impression de voir 5 séquences entrecoupé. Il n'y a jamais de début, il n'y a jamais de milieu, il n'y a jamais de fin. Donc en fait, la structure même d'un film est complètement niée. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de temps fort, il n'y a jamais de... Voilà. Là où ça fonctionnait très très bien, et encore, le film n'est pas systématiquement fait comme ça, c'était Interstellar, parce que ça nous présentait le temps de manière cyclique, ça nous expliquait que le début était une fin, etc. Et c'était justifié parce qu'il y avait plein de temps mélangés. Mais c'est le seul film, peut-être Inception, et encore, j'ai trouvé que... Voilà, mais j'ai l'impression qu'il l'use et il abuse de ça, et j'ai l'impression que c'est... Enfin, que c'est pas monté en fait. Que c'est,
Pourtant, crois pas qu'il y ait dû avoir du montage.
Hein, ouais, mais je sais pas. En fait, c'est vite très fatigant parce que ça ne se termine jamais. C'est encore cette séquence. Wow,
et c'est surtout,
j'en peux plus de ce décor en fait. J'ai envie de passer à autre chose et j'ai envie qu'on me montre. Ok, l'enjeu est terminé. On est un scénario pour moi. C'est on va vers un but et puis on a un obstacle. On dévie. Et on passe à la séquence suivante. Je sais que c'est un peu dogmatique, mais si tout le film, c'est en permanence des « pendant ce temps », avec des tiroirs et des tiroirs et des tiroirs et des tiroirs, au bout d'un moment, j'ai juste envie que ça avance et ça n'avance jamais.
Mais est-ce que tu aurais préféré...
J'ai vu deux séquences de 1h30, c'est ça que j'ai
Est-ce que tu aurais préféré une mini-série 6 épisodes, 52, et raconter dans l'ordre...
Je trouve qu'il n'y a pas assez à raconter.
Juste un film plus court.
Oui.
En fait, non, mais il y a un problème dans ce film, c'est qu'il y a une monotonie. Oui. Mais vraiment au niveau du ton, qui est extraordinaire. C'est-à-dire que toutes les scènes sont sur le même rythme, sur le même ton. Il n'y a jamais d'humour, mais alors jamais. Jamais. Il n'y a jamais de changement émotionnel où tout d'un coup on est là, oh, qu'est-ce qui va se passer ? Il n'y a aucun suspense. Et en fait, ils arrivent à faire le tour de force d'avoir des bonnes punchlines à chaque fin de scène. Je ne sais pas comment ils font ça. C'est vraiment les fins de scène, elles sont. Il y a des super punchlines, ça finit fort. Et pourtant, on s'ennuie. Non, mais si. Non, alors ça, il y en a, elles sont longues, mais il y a vraiment des bonnes fins de scène. Et j'étais à chaque fois, oh, la bonne punchline. Un peu dans l'analyse, parce que je n'étais pas prise dans l'émotion, tu vois. Et pourtant, on s'ennuie parce que le rythme, il est mou et que c'est monotone, en fait.
Très bien. Finissons sur la thématique. Camille, ma spécialiste de la thématique.
Eh ben, je pense que tu l'as dit au début, en fait, la thématique, mais je la reprends parce que je la trouve très intéressante. Rien que pour ça, ça me donne envie de voir le film. C'est quand tu es passionné de science, jusqu'à où tu es prêt à aller pour ta passion et pour l'amour de ta discipline.
Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a ça, et puis il y a aussi ce côté, comme disait Sarah tout à l'heure, à un moment ou à un autre, on va te voler ton travail, quoi. Et il faut faire ce qui nous parle, hein, en tant que scénariste. Mais tu vois, il y a ce côté... t'auras beau faire tous les efforts, t'auras avoir l'impression que tout est à toi et que tu maîtrises tout. En fait, tu maîtrises jamais vraiment rien. Et il y aura toujours des gens frustrés, comme le personnage de Vitros, qui seront là pour te mettre des bâtons dans les roues.
Moi, j'ai l'impression que la thématique... Enfin, comme c'est quand même... Ça s'appelle Oppenheimer, c'est sur la vie de ce mec-là. C'est plutôt Oppenheimer, victime ou coupable, héros ou tueur, et que ça se termine sans vraie réponse. Que c'est plutôt, voilà ce que je vous ai dit de manière la plus presque neutre possible, même si ça n'est pas tout à fait. Faites-vous votre avis sur ce personnage compliqué.
Oui, c'est pas faux. Parce que, juste petite parenthèse, j'ai adoré toutes les idées visuelles qu'il y avait dans ce film, notamment, ils ont à un moment un espèce d'aquarium à poissons, puis ils mettent des petites billes à l'intérieur pour montrer l'évolution de l'uranium pour fabriquer. Mais vous avez raison, et c'est pour moi la meilleure scène du film qu'on voit trois fois, là tu disais tout à l'heure, Fiona, c'est cette... oui, Armand, on la voit trois fois. C'est cette scène avec Albert Einstein et Oppenheimer, où Lévi-Strauss s'est persuadé qu'il parle d'eux, et la phrase où ils disent « Ouais, j'ai l'impression que les premiers calculs disent que si on fabrique une bombe atomique, ça va tuer le monde. » Et ça finit là-dessus. Et là, je pense que tu as raison sur le côté héros coupable. Et ce côté, vous saviez, quand on pensait qu'on allait détruire le monde, fait I believe we did. Et ben, j'ai adoré cette. Alors qu'on est en 2023 et on voit bien que non. Pour l'instant, le monde n'a pas été détruit par les bombes atomiques. Donc là, on a l'impression qu'Oppenheimer, il pleure en se disant, dans 10 ans, on est tous morts, quoi. Et malgré qu'on ait cette espèce de. Oui, c'est vrai. Bien qu'on ait.
C'est l'équivalent de truc, ça. Hein.
C'est vrai. Ouais. Bon, d'accord.
Non, mais je reprends la balle sur justement cette séquence. Quand il dit I believe we did, je pense qu'il parle même pas de un jour ça va exploser. Il dit en fait c'est déjà fissuré, on l'a utilisé, enfin c'est déjà passé. Je pense qu'il a même pas peur pour l'avenir, c'est que pour lui c'est déjà fichu.
Tour final sur ce film, Sarah.
Vraiment, le film est trop long, hein. Pardon de me répéter, mais en fait faut arrêter de faire ces films lents, trop longs, monotones. Enfin, je trouve ça très dommage. Autant d'acteurs exceptionnels et autant de manque d'émotion. d'empathie pour ces personnages qui sont sous-exploités. On n'a pas du tout parlé des personnages féminins, mais c'est dramatique à quel point ils ne sont pas développés, à quel point ils n'ont pas d'objectifs, à quel point c'est des figurantes.
Bah, y a une alcoolique.
Voilà.
Qui a un moment de bravoure et qu'on aurait voulu voir plus parce qu'il était vraiment cool son moment de bravoure. Ouais.
Donc le sujet est passionnant, mais je trouve que en fait, c'est dommage en fait de rester comme ça en surface, c'est extrêmement distant de ces personnages-là. Ça fait que finalement, on a, je sais pas, moi je trouve que s'il n'y a pas d'émotion dans un film, le pari est raté. En fait.
Okay. Armand,
pas beaucoup plus à dire. Plus ça aurait dû être plus court et effectivement, avec plus de, on aurait aimé être plus en empathie avec le personnage. Le seul moment où j'ai souri, je me suis dit ah ouais, quelle belle scène. Bah oui, c'était le moment de bravoure d'Emily Blunt qui sauve son mec à coup de bonne répartie. Elle arrive à retourner psychologiquement l'espèce de procureur à la con. Et j'ai trouvé ce moment super chouette. Et je me suis dit, j'aurais aimé plus de scènes comme ça.
Camille, est-ce que t'as envie de voir le film, du coup?
Je pense que j'irai pas voir le film. Que je peux utiliser mon temps autrement.
Tu viens de dire que la thématique te donne envie de le voir?
Oui, mais j'ai rechangé d'avis.
Très bien, Fiona.
Bah, moi, j'ai plutôt aimé ce film parce que je le reverrai pas une deuxième fois, je pense. Parce que c'était quand même long, c'est vrai. Mais pour le coup, je me suis pas ennuyée malgré le temps long, parce que j'avoue que je m'en suis quand même pris pas mal. Enfin, je sais pas, il y avait quand même des idées visuelles. Par contre, il faut le voir au cinéma. Je pense que
par rapport à Barbie,
par rapport à Barbie, Oppenheimer lui met la pâtée.
Moi, j'ai préféré de très très loin Barbie.
Ah, moi, de très 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 loin. Oppenheimer, il y a même pas un sujet. Si je préfère largement voir des films comme ça, qui ont au moins une proposition aussi visuelle sur ces idées, quand on est à l'intérieur de sa tête un peu, et bon, la tête de la bombe, même si tu sais que ça va marcher du test, bah, je trouve que t'es ouh, ça monte bien. J'ai vraiment beaucoup aimé cette scène. Et je trouve que ça donne matière quand même à réflexion, et qu'effectivement, il y a des bonnes punches, il y a des bons acteurs. Il faut le voir au cinéma. C'est pas le meilleur Nolan, et je suis complètement d'accord sur le fait qu'il abuse de ce montage pour faire du... Comme si c'était maintenant, c'est sa marque de fabrique, il ne pouvait pas s'en défaire. Mais oui, je préfère largement, largement voir Oppenheimer que Barbie.
Bah écoute, encore une fois, je te rejoins, Fiona. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Après, je suis sûrement biaisé, parce que je suis un fanboy de Nolan, je ne vais pas m'en cacher. Même si quand je préfère que ce soit son frère qui a l'écriture, parce que je trouve qu'il écrit mieux que lui, et dès qu'il part, ça pêche un peu. Mais il y a ça, et puis le sujet m'intéresse. J'adore la science, j'adore les scientifiques. À chaque fois qu'il disait un nom, que vous, ça vous dit, mais à chaque fois, il y a Niels Bohr, je fais, oh mon dieu, il y a Niels Bohr, il y a Richard Feynman, oh mon dieu. Mais il donnait alors des répliques. Moi, il y a Richard Feynman qui a même participé. Et il y a rien, il a une réplique, Richard. J'y attends, c'est un héros, ce mec-là. Enfin bon, bref. Du coup, je me dis, est-ce qu'il y aurait le même film, le même ton, le même propos, mais il serait parlé de vin? Je me serais sûrement ennuyé, pour être honnête.
Mais... Par contre, moi, j'y connais rien du tout, et ça, vraiment, je connaissais à peine le nom d'Oppenheimer. Je savais juste qu'il avait un rapport avec la bombe atomique, hein, pour te dire à quel point j'étais inculte, et ça m'a quand même intéressé.
Et bien voilà, hein, je pense qu'on a décidé, Fiona et moi, c'est un bon film. Voilà. Oui, Armand.
Je peux faire une recommandation sur un film qui n'a rien à voir, mais en fait, c'est sur le péril nucléaire. C'est un film qui s'appelle 13 jours, avec Kevin Costner, et qui raconte extrêmement bien la crise des missiles de Cuba. Comment, en fait, au gouvernement américain, on se creuse la tête pour essayer d'éviter la fin du monde. Et dans un temps très réduit, avec énormément de pression et beaucoup d'astuces. Et je trouve le film extrêmement réussi là-dessus.
Pas très bien. Ça tombe bien, parce qu'on passe à la recommandation. Mais c'est Fiona qui va la faire.
Non, moi, je recommande une pièce de théâtre qui s'appelle Berlin, Berlin, qui, je pense, a eu d'ailleurs des Molières, je crois... un ou deux, qui parle donc de Berlin, la chute du mur et le passage entre, enfin avant la chute du mur justement, les gens qui veulent passer de Berlin, je me trompe toujours entre les deux, c'est horrible.
Est à ouest.
Est à ouest, merci. J'avais peur de dire une absurdité, donc je ne verrais rien dire. Et les situations sont très, on peut se dire oui, bah, c'est logique qu'il va se passer ça, c'est assez convenu sur ce qui va se passer, mais c'est tellement bien joué et c'est tellement drôle qu'on accepte tout. On se dit oui, ça va sûrement aller là, et je veux que ça aille là, et c'est très drôle. Et donc, ouais, non, vraiment, c'était un très 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 chouette moment. Donc, ça s'appelle Berlin, Berlin.
Ça, la pièce de théâtre se passe à Berlin?
Oui.
Le décor doit être très très moche alors. Parce que,
c'est dans un appartement.
N'oublions pas que c'est la ville la plus moche du monde. Merci de nous avoir écoutés, et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode.
Dans 6 mois.